Assoyez-vous confortablement et prenez plaisir à écouter ces contes et légendes, venus d'ailleurs ou d'un autre temps. Voici « Contes pour grands-enfants ». Bien le bonjour. Aujourd'hui, je fais quelque chose d'un peu différent. Vous vous attendez sans doute à des classiques hein, de Charles Perrault, des Frères Grimm, de tous ces fameux auteurs des temps passés qui ont écrit des contes. Eh bien, oui, on va entendre des contes que vous connaissez aujourd'hui, par exemple Les Trois Petits Cochons ou Le Petit Chaperon Rouge, mais lus, écrits de façon politiquement correcte. En fait, c'est ce petit livre que j'ai trouvé, écrit par James Finn Garner, et qui s'appelle « Politiquement correct, conte d'autrefois pour lecteurs d'aujourd'hui ». Attendez-vous à ricaner un peu comme moi je l'ai fait tout au long de ma lecture. Le premier, le petit chaperon rouge. Le premier conte aujourd'hui, le petit chaperon rouge. Il était une fois une jeune personne, appelée le petit chaperon rouge, qui vivait avec sa mère à la lisière d'un grand bois. Un jour, sa mère lui demanda d'aller porter à sa grand-mère une corbeille de fruits frais et de l'eau minérale, encore une tâche réservée aux femmes, direz-vous. Eh bien non, c'était tout simplement une démarche généreuse. Pourquoi le petit chaperon rouge n'aurait-elle pas eu, elle aussi, le sens de la communauté? Et qui plus est, sa grand-mère, loin d'être malade ou gâteuse, était une adulte rayonnante de maturité et parfaitement capable de prendre soin d'elle-même. Le petit chaperon rouge partit donc à travers bois avec sa corbeille. Beaucoup de gens s'imaginaient que la forêt était un endroit maléfique et dangereux et ne s'y aventuraient jamais. Dieu merci! La jeune fille en fleurs qu'était le petit chaperon rouge assumait déjà très bien sa sexualité naissante et jamais une imagerie freudienne aussi évidente ne l'aurait intimidée. En chemin, le petit chaperon rouge fut accosté par un loup qui lui demanda ce qu'il y avait dans sa corbeille. « Une collation diététique pour ma grand-mère, » répondit-elle. « Mais ne vous méprenez pas, c'est une adulte nullement entamée par les années, tout à fait capable de se débrouiller seule. »« fit le loup. « Vous savez, ma chère, qu'une petite fille comme vous ne devrait pas se promener toute seule dans ces bois. » Voilà tout ce qu'il trouva à dire. Et le petit chaperon rouge lui fit aussitôt remarquer combien ce genre de réflexion sexiste était blessant à l'extrême. « Mais vous avez la partie belle, » lui dit-elle. « Grâce à votre statut traditionnel d'exclu, on ne peut rien vous reprocher. Stressé comme vous l'êtes par votre condition, il n'est pas étonnant que vous ayez été amené à forger votre propre, et absolument valable du reste, vision du monde. À présent, si vous voulez bien m'excuser, je dois poursuivre ma route. » Le petit chaperon rouge emprunta le chemin principal. Mais le loup, forcé de vivre en marge de la société, s'était libéré depuis belle lurette de toute adhésion servile à un système de pensée linéaire, typique de l'Ouest, et connaissait un raccourci qui menait à la maison de Mère Grand. Une fois arrivé, il mangea Mère Grand, conduite on ne peut plus orthodoxe pour un carnivore tel que lui. Puis, très au-dessus, comme il se doit, des principes rigides et abrutissants qui conditionnent les hommes à s'habiller en hommes et les femmes en femmes, il mit la chemise et le bonnet de nuit de Mère Grand et se glissa dans le lit. Le petit chaperon rouge entra dans la maisonnette et dit « Mère Grand, je vous ai apporté une collation 100% naturelle, sans corps gras ni sodium, pour rendre hommage à la matriarche avisée et attentive que vous êtes. »« Approche, mon enfant, » dit le loup depuis le lit, « que je puisse te voir. » « Oh !» s'écria le petit chaperon rouge. « J'oubliais que vous êtes aussi optiquement contrarié qu'une taupe, Mère Grand !» Que vous avez de grands yeux! Ils ont beaucoup vu et beaucoup pardonné, mon enfant. Oh, Mère Grand, que vous avez un grand nez! Enfin, si on veut, car dans son genre, il est très séduisant.
Il a beaucoup flairé et beaucoup pardonné, mon enfant.
Oh, « Mère grand, que vous avez de grandes dents !»« Écoute, soupira le loup, je me contente d'être qui je suis et ce que je suis, un point c'est tout. » Et il bondit du lit, puis saisit le petit chaperon rouge entre ses griffes dans l'intention de la dévorer. Le petit chaperon rouge cria, ce qui n'est pas une raison pour conclure hâtivement que le penchant manifeste du loup au travestissement l'effaroucha. Non, elle cria parce qu'en fait, le loup envahissait délibérément son espace personnel. Ces cris furent entendus par une personne exerçant les fonctions de bûcheron ou de technicien du ravitaillement en combustible, ainsi qu'il préférait appeler. Entré en trombe dans la maisonnette, il vit la mêlée et tenta d'intervenir. Mais au moment où il levait sa hache, le petit chaperon rouge et le loup s'arrêtèrent net. « Et qu'est-ce que vous croyez être exactement en train de faire? » demanda le petit chaperon rouge. La personne exerçant les fonctions de bûcheron cligna des yeux et essaya de répondre, mais fut incapable de proférer le moindre mot. « Surgir ici! » « Comme un homme des cavernes !» s'exclamait-elle. « Mais allez-y, laissez donc à votre âme le soin de penser à votre place. Sexiste ! Espèce d'espéciste ! Comment osez-vous présumer qu'une femme et un loup sont incapables de résoudre leurs problèmes sans l'aide d'un homme ?» Lorsqu'elle entendit les propos exaltés du petit chaperon rouge, Mère Grand sortit promptement de la gueule du loup. Elle empoigna la hache du coupeur de bois et lui trancha la tête. Là ! Une épreuve pareille, on s'en doute, ça crée des liens. Et le petit chaperon rouge, Mère Grand et le loup comprirent d'emblée qu'ils avaient pas mal d'objectifs en commun. Alors, sans coup faire rire, ils fondèrent un nouveau genre de ménage à trois, fondé sur un respect mutuel et une vraie coopération. Et ensemble, ils vécurent dans la félicité le reste de leurs jours.
Dans les grands bois, quand soudain une ombre bouge, c'est un loup, un gros loup à l'œil sournois, qui se dit en voyant la gamine, j'ai besoin de vitamines, je vais faire un bon petit repas froid.
Tire, tire, tire la chevillette, tire et la bobinette chéra.
Où allez-vous donc, fillette? Lui demande le loup gourmand. Je vais porter une galette et un petit pot de beurre à ma mère grand qui habite cette maisonnette. Allez vite, mignonnette, et merci, merci pour le renseignement.
Tire, tire, tire la chevillette, tire et la bobinette chera.
Tandis qu'elle cueille des noisettes, il court vite chez la mère grand et d'un seul coup de fourchette, avale presque toute la bonne maman. Pour la tête, se fait une vinaigrette, mes chemises, bonnet, lunettes, puis se couche dans le lit en ricanant. Ah, le miche,
tire, tire, tire la chemillette, tire, tire la bobinette, chéra.
Toc, 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 vient la pauvrette qui annonce à sa mère grand, je vous apporte une galette et du beurre que vous envoie ma maman. Imitant la vieille maman.
Tire, tire, tire la chevillette, tire et la bobinette chéra.
Elle entra dans la chaumière, s'écria en la voyant, que vos bras sont longs, grand-mère, c'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Que vos yeux, vos oreilles, vos molaires ont grandi, bonne grand-mère, c'est pour mieux te manger, mon enfant. Le petit chaperon pas bête, se rappelant la fin de l'histoire, prit une grosse clé à molette et lui ferma soigneusement la mâchoire. Puis doucement, au loup bavant de colère, je t'ai laissé bouffer, grand-mère, mais faudrait tout de même pas me prendre pour une poire. Le petit pot et la galette, c'est chaperon qui les mangera. Il faut toujours, ma grosse bête, méfier d'un plus petit que soi.
Tire, tire, tire la chevillette, tire et la bobinette chéra. Tire, tire, tire la chevillette,
tirer la bobinette, Gérard.
Et voilà.
Maintenant, Cendrillon, revampé à la sauce de James Finn Garner. Le livre politiquement correct est disponible chez Grasset. Il était une fois une jeune femme appelée Cendrillon, qui perdit sa mère naturelle alors qu'elle était enfant. Quelques années plus tard, son père se remaria avec une veuve qui avait elle-même deux filles. Cendrillon fut traitée d'une façon abominable par sa mère et ses sœurs d'emprunt, qui la forcèrent à les servir comme si elle avait été leur employée personnelle non rémunérée. Un jour, elle reçut une invitation. Le prince fêtait son exploitation de la paysannerie dépossédée et marginalisée en donnant un grand bal. Surexcitées à l'idée de se rendre au palais, les sœurs d'emprunt de Cendrillon se mirent à essayer des vêtements coûteux qui soumettraient leur corps à la torture jusqu'à ce qu'ils répondissent aux critères irréalistes de la beauté féminine. D'autant plus irréalistes dans leur cas qu'elles avaient des visages assez particuliers pour arrêter une pendule rien qu'en la regardant. Sa mère d'emprunt ayant décidé d'assister au bal, elle aussi, Cendrillon trima plus durement qu'un chien, métaphore appropriée en dépit, hélas, de son caractère espéciste. Et le jour venu, Cendrillon dut continuer à suer sang et eau pour aider sa mère et ses sœurs d'emprunt à enfiler leur robe de bal. Une tâche à la limite de la gageure. Autant s'acharner à fourrer 10 livres de carcasse animale non humaine dans un étui prévu pour en contenir 5. Et mieux vaut s'abstenir de décrire les tartines de cosmétiques employées par la suite. Le soir tomba. Sa mère et ses sœurs d'emprunt laissèrent Cendrillon à la maison avec le ménage à finir. Triste Cendrillon. Oui, mais elle était sur le point de battre tous les records de sainteté, ce qui la consolait un peu. Il y eut soudain un éclair. Un homme, flottant dans des habits amples en coton et coiffé d'un chapeau à large bord, apparut devant elle. Cendrillon crut d'abord avoir affaire à un fermier endimanché du midi ou à un chef de fanfare. Il ne tarda pas à l'éclairer. « Salut, Cendrillon, lui dit-il. Je suis l'être féerique qui vous sert de marraine, ou votre divin fondé de pouvoir, si vous aimez mieux. Alors, comme ça, on veut aller au bal, hein? Et se parer en acceptant aveuglément le concept de la beauté imposé par le mâle? On veut se boudiner le corps dans une robe trop serrée qui bloque la circulation? Se martyriser les pieds dans des chaussures à talons hauts qui nuisent à l'ossature et se peinturlurer le visage avec des produits chimiques et des cosmétiques testés sur des animaux non humains? Eh bien oui! Fit-elle dans un cri du cœur. L'être féerique qui lui servait de marraine poussa un gros soupir. Il remettrait à plus tard son éducation politique. Grâce à ses pouvoirs magiques, il l'enveloppa d'une belle lumière vive et l'emporta dans un tourbillon jusqu'au palais. Cette nuit-là, beaucoup d'équipages étaient alignés à l'extérieur du palais. Jamais personne n'aurait songé à utiliser un transport en commun. Cendrillon, elle, arriva dans un lourd carrosse doré, péniblement tiré par un attelage de chevaux esclaves. Sa robe moulante avait été tissée avec de la soie dérobée à des vers sans méfiance. Sa chevelure était ornée de perles volées à des huîtres travailleuses et sans défense. Et si dangereux que cela puisse paraître, elle était chaussée de délicates pantoufles en cristal taillé. Toutes les têtes se tournèrent vers Cendrillon lorsqu'elle pénétra dans la salle de bal. Les hommes s'enflammèrent de désir à la vue de cette poupée Barbie qui incarnait si bien leur idéal. Les femmes, conditionnées depuis leur plus jeune âge à mépriser leur corps, détaillèrent Cendrillon avec autant d'envie que de malveillance. Une jalousie dévastatrice empêcha même sa propre mère et ses propres sœurs d'emprunt de la reconnaître. Cendrillon sentit bientôt peser sur elle l'œil lubrique du prince, occupé à discuter joutes et combats d'ours et de chiens avec ses vieux copains. En la regardant, le prince eut les cordes vocales contrariées et resta sans voix comme la majorité de ses hôtes. « Ah! Voici une femme, se dit-il, que je vais épouser et féconder. Que pourrait produire le mélange de nos gènes parfaits, sinon une progéniture parfaite? Tous les autres princes en seront malades d'envie. Et en plus, elle est blonde. » Le prince, l'œil fixé sur sa future proie, traversa la salle de bal, et ses copains aussi. Disons tout mal qu'il avait moins de 70 ans ou n'était pas là pour servir de boisson. Fier d'être le centre d'une telle attention, Cendrillon, la tête haute, se comportait comme une femme de haut rang sans s'apercevoir que l'agitation provoquée par sa présence était sur le point de tourner à l'esclandre ou du moins présentait les signes d'un très sérieux dysfonctionnement social. Le prince avait été un peu plus clair avec ses amis sur ses intentions de possession, ce qui les avait mis hors d'eux car il comptait bien l'avoir aussi. Les cris fusèrent, on commença à s'agresser. Le meilleur ami du prince, un duc volumineux, bien que cérébralement maigrelet, le rattrapa au milieu de la piste de danse. « C'est moi qui l'aurai !» Le prince lui décrocha un prompt coup de pied dans les parties, si bien que le duc fut hors compétition pour un moment. Assailli illico presto par les obsédés sexuels qu'étaient les autres mâles, le prince disparut sous un tas d'animaux humains. Consterné par la manifestation intempestive de cette violente poussée de testostérone, les femmes tentèrent d'arrêter le pugilat. En vain! Alors, elles entourèrent Cendrillon, responsable à leurs yeux d'un pareil désordre, et leur hostilité à son égard, faut-il le préciser, rompit entre elles tout lien de sororité. Fuir? Comment Cendrillon aurait-elle pu avec au pied des pantoufles de verre si peu pratiques? Heureusement pour elle, aucune des autres femmes n'était mieux chaussée. Tapage devint tel que personne n'entendit l'horloge de la tour sonner minuit. Au 12e coup, bang! La belle robe et les pantoufles de Cendrillon se volatilisèrent et elle se retrouva dans ses guenilles de paysanne. L'ayant reconnue à l'instant même, sa mère et sa sœur d'emprunt s'étranglèrent de stupeur, mais ne bronchèrent pas afin de ne pas se compromettre. Médusée. Les femmes se turent devant cette métaphore magique. Enfin libérée de la robe et des pantoufles qui l'emprisonnaient, Cendrillon s'étira, se frotta les côtes et puis sourit, l'air extatique. Ah! À présent, mes sœurs, tuez-moi si vous le voulez, leur dit-elle, mais sachez qu'au moins je mourrai à l'aise. La jalousie gagna à nouveau les autres femmes et prit cette fois une tournure différente. Au lieu de songer à se venger, elles se dépouillèrent les unes après les autres de leurs gaines et de leurs corsets, puis de leurs chaussures, bref, de tout vêtement contraignant pour leur corps. Pieds nus, aériennes dans leurs combinaisons, elles dansèrent et virevoltèrent en poussant des cris de joie. Si les hommes avaient interrompu leur gigue destructive de macho pour les regarder, ils auraient découvert bien des femmes fort désirables, habillées comme si elles étaient prêtes à les recevoir dans l'intimité de leur boudoir. Bien trop occupés à se taper dessus et à s'étriper, ils périrent tous jusqu'au dernier. Les femmes gloussèrent, sans éprouver le moindre remords. Le palais et le royaume étaient soudain à elles. Leur premier acte officiel fut de revêtir les hommes de leurs anciennes robes, puis de raconter aux médias que la bagarre avait éclaté lorsque quelqu'un avait menacé de révéler au public les tendances au travestissement du prince et de ses copains. Le second fut de créer une coopérative du vêtement où on ne fabriquerait que des habits confortables et pratiques pour les femmes. Une enseigne apparut bientôt à l'extérieur du palais avec, inscrit en gros caractères, « Cendry Fringue ». C'était le nom de cette nouvelle ligne d'habillement. Et toutes, jouissant de leur autonomie politique et des retombées d'une habile campagne de marketing, vécurent très heureuses de longues et nombreuses années, y compris la mère et les sœurs d'emprunt de Cendrillon.
Salagadou, la menchikabou, la bibidi-bobidi-bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi-bobidi-bou. Salagadou, la menchikabou, la bibidi-bobidi-bou. C'est de la magie ou je ne m'y connais pas. Bibidi bobidi bou. Salagadoula veut dire la magie scoop bidou. Mais le truc qui fait boum à tous les coups, c'est bibidi bobidi bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi?
Et pour terminer la lecture d'aujourd'hui, passons aux trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons qui vivaient ensemble. Vous vous demandez comment? dans le respect mutuel naturellement et aussi en harmonie avec leur environnement. Si on vous dit que chacun d'eux construisait une belle maison avec des matériaux indigènes, vous n'en serez donc pas surpris. Le premier, eh bien, une maison de paille. Le deuxième, une maison de bois. Quant au troisième, il commença en bon écolo par confectionner des briques de crottin, d'argile et de vigne vierge qu'il cuisit dans un petit four, puis les utilisa pour bâtir sa maison. Les travaux terminés, les cochons, très contents d'eux, reprirent le cours d'une vie sans histoire, en cochons libres de disposer d'eux-mêmes. C'était trop beau pour durer. Et leur existence idyllique un jour fut gravement perturbée par l'arrivée d'un grand méchant loup à l'idéologie expansionniste. Lorsque le loup les aperçut, non seulement cela lui ouvrit l'appétit, mais aussi des horizons. Les cochons, on le comprend, se précipitèrent dans la maison de paille sans demander leur reste. Le loup courut tambouriner contre la porte. « Petit cochon! Petit cochon! » cria-t-il. « Laissez-moi entrer! » « Hé! Oh! Du calme! » répliquèrent les cochons. « Si vous croyez que votre tactique de la canonnière impressionne des cochons comme nous, prêts à défendre jusqu'au bout leur maison et leur culture, vous vous trompez! » Mais le loup n'entendait pas renoncer à ce qu'il prenait pour un appel manifeste du destin. Alors il gronda et souffla et fit s'écrouler la maison de paille. Effrayés, les cochons n'eurent que le temps de se réfugier dans la maison de bois avec le loup, on s'en doute, à leur trousse. Et que firent les autres loups? Ils en profitèrent pour rafler le terrain où s'était tenue la maison de paille et commencèrent à y exploiter une plantation de bananiers. Tenace, le loup tambourina contre la porte de la maison de bois. « Petit cochon! Petit cochon! » cria-t-il. « Laissez-moi entrer! » « Allez au diable !» rétorquèrent les cochons. « Sale oppresseur, vil impérialiste carnassier !» Le loup, toujours aussi prétentieux, étouffa un petit rire condescendant. « Quel béné !» songea-t-il. « Dans leur genre, ils sont charmants et ce sera dommage de les voir partir. Mais quoi ? On ne peut pas arrêter le progrès. » Alors le loup gronda et souffla et fit s'écrouler la maison de bois. « Sauf qui peut !» Les cochons coururent jusqu'à la maison de briques, talonnés une fois de plus par le loup. Et que firent les autres loups? Ils bâtirent un village de vacances pour loups en congé payé en l'endroit même où s'était tenue la maison de bois. Il s'agissait en fait d'un vaste complexe en multipropriété et chaque unité était une réplique en fibre de verre de la maison de bois. Pourquoi s'arrêter là? Ils ouvrirent ensuite des boutiques où l'on vendait des objets typiques de la région et sans lésiner, créèrent dans la foulée un centre de loisirs avec stage de plongée sous-marine le mardi et le jeudi et spectacle de dauphins pendant le week-end. Avec acharnement, le loup tambourina contre la porte de la maison de briques. « Petit cochon! Petit cochon! » cria-t-il. « Laissez-moi entrer! » Trop, c'était trop. Au lieu de s'abaisser à lui répondre, les cochons entonnèrent l'international, puis écrivirent des lettres de protestation aux Nations unies. Le refus entêté des cochons de prendre en considération son point de vue de carnassier tapait depuis un moment déjà sur les nerfs du loup. Alors il gronda et souffla et gronda et souffla, puis porta soudain une patte contre sa poitrine et crac! Tomba raide mort, victime d'une crise cardiaque foudroyante. Et voilà ce qui arrive quand on se bourre d'aliments gras. Ne se tenant plus de joie de voir triompher la justice, les trois petits cochons exécutèrent trois pas de danse autour du cadavre du loup. Il ne leur restait plus qu'à libérer leur patrie. Après avoir rassemblé les autres cochons qu'on avait expropriés de leur terre, ils constituèrent une véritable brigade de porcinistes qui attaqua le village de vacances à la mitraillette et aux lance-roquettes et massacra les cruels loups oppresseurs. Clair et net avertissement envoyé du même coup au monde entier. « Ne vous mêlez pas de nos affaires de cochons, ougars !» Enfin en paix. Ils instaurèrent un modèle de démocratie socialiste avec enseignement gratuit, couverture sociale généralisée et logement à la portée de tout le monde. Postscriptum. Le loup dans ce conte n'est qu'une figure métaphorique. Il n'a été fait de mal à aucun loup en chair et en os au cours de la rédaction de l'histoire.
Cochons qui s'en allaient, trois petits cochons de lait. Le premier dit, c'est ici que je fais ma maison, puis je vais leur faire un carton. Le grand méchant loup qui passait, il était méchant pas à peu près. Il dit, hey mon cochon, regarde bien ta maison. Voilà blanc, voilà blanc. Y'en a un qui dit, moi je fais ma maison là, puis je vais la faire en bois. Le grand méchant loup qui les suivait aimait bien le trou qu'il leur donnait. Il dit, hey mon cochon, regarde bien ta maison. Voilà blanc! À tout ce qui leur arrivait, il dit, je vais faire un bloc en béton, puis louer des jambes aux autres cochons. Le grand méchant loup qui s'essoufflait dit, 20% pis je te sac la paix. Ce qui prouve en vue que quand t'as du bacon, faut pas le blanc, faut pas le loin, faut pas le brouiller des airs.
Recherche, lecture et montage, Marie-Hélène Bourret.